Vous écoutez Radion sur le 90.5 ou en direct via internet sur radion.fr. Il est 21h passé de quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous à bord de Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire. Et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. C'est l'histoire locale qui va nous occuper aujourd'hui puisque nous allons nous pencher avec nos trois invités en studio sur un moment mythique inscrit au Panthéon des Gauches au XXe siècle. Nous allons en effet revenir ce soir et mercredi prochain, puisque ce sera une émission en deux parties. Nous allons donc revenir sur l'année 1936 et sur le Front populaire dans l'Yonne, dans notre département. En novembre 2016, l'Association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux, ADIAMOS 89, a organisé à Auxerre un colloque sur le Front populaire dans l'Yonne, et les actes de ce colloque, 380 pages richement illustrées, sont depuis disponibles dans les librairies iconaises, mais également sur le site de ADIAMOS 89, où on peut le commander. Je vous présente nos trois invités, tous les trois membres de ADIAMOS 89 et qui ont chacun participé au colloque de novembre 2016. Sophie Barré, bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Historienne tout comme Denis Martin.
Bonsoir.
Et Frédéric Gant qui nous accompagne également jusqu'à 22h.
Bonsoir Yannick.
Bonsoir à tous les trois et merci d'être devant nos micros pour revenir sur le Front populaire. Nous sommes en 2018, la France, il y a une certaine ébullition sociale. Néanmoins, vous avez marqué l'événement avec ce colloque en 2016 et pourtant, le 80e anniversaire du Front populaire, alors que la France avait un président de la République socialiste, cet événement a été peu commémoré. En tout cas, pourquoi tant de discrétion autour du 80e anniversaire du Front populaire ?
Alors effectivement, Yannick, vous posez une bonne question, parce que est-ce la mue social-démocrate de la présidence Hollande qui peut l'expliquer? On ne peut que s'étonner de cette absence de commémoration nationale, alors que nous étions déjà dans un plan de commémoration nationale pour la Grande Guerre 14-18. Il semble que l'époque ne soit plus à la commémoration des grands mouvements sociaux, à moins que l'époque plus libérale aujourd'hui mette de côté, avant d'y revenir plus tard, ce genre d'événement. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues.
Est-ce que Sophie Barré ou Denis Martin souhaitent apporter une réflexion à notre question initiale ?
Oui, c'était d'ailleurs troublant parce que le contexte ressemblait beaucoup à celui d'il y a 2 ans. C'était à peu près les mêmes ingrédients qui ressurgissent 80 années plus tard. Donc effectivement, peut-être que là, le gouvernement qui était un gouvernement de gauche n'apportait peut-être pas les mêmes réponses que ce qui avait été fait auparavant.
Et puis il faut dire, Denis Martin, tout de même que la loi travail avait détricoté certains éléments qui avaient été acquis aux travailleurs en 1936.
Absolument. Donc à part quelques commémorations très discrètes, expositions ou autres, officiellement, il n'y a pas eu de commémoration du Front populaire. C'est très étonnant. On avait un président socialiste. Mais effectivement, en 1936, les ouvriers criaient Vas-y Léon, Léon Blum, mais personne en 2016 criait Vas-y Hollande.
Le Front populaire, 1936, c'est aussi un contexte européen qui est lié tout de même à cette grande crise. Alors, crise de 29 qui a éclaté avec ce jeudi noir à la Bourse de New York en 1929. Sophie Barré, les années 30, ce sont les années où l'Europe, les pays européens et la France reçoivent de plein fouet les conséquences de cette crise qui traverse l'Atlantique.
Oui, cette crise, comme vous le disiez, a commencé en 29 aux États-Unis. Elle est venue plus tardivement en Europe. Dans les années 30, la France a vraiment été touchée en 1931, un peu moins que ses voisins, en particulier moins que l'Allemagne, mais elle est quand même présente à ce moment-là. Donc le taux de chômage augmente, est très important chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Ce sont elles les premières touchées. Alors, pas dans l'Yonne enfin moins dans Lyon, parce qu'en fait, dans Lyon, les entreprises qui vont être touchées, ce sont des entreprises qui emploient plus d'hommes. Mais voilà, un contexte social difficile avec une hausse du chômage, avec une baisse du pouvoir d'achat pour la plupart des populations, en particulier les fonctionnaires qui vont être touchés par cette crise. Et un département qui, enfin, ou même la France qui va, comment dire, un peu mieux résister que le reste de l'Europe, parce que il va y avoir un impact économique un peu qui va être, comment dire, atténué du fait que c'est un pays plus rural.
C'est le cas aussi d'ailleurs de ce département de Lyon à la veille du Front populaire, Frédéric Gand. Il faut imaginer notre département de Lyon, c'est un département qui est très rural et dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture.
Tout à fait, Yannick. Lyon, en 1936, totalise environ 300 000, 270 000 pour être précis, habitants, dont les deux tiers sont ruraux. Les villes sont très peu nombreuses, quelques-unes font plusieurs milliers d'habitants, il n'y a que deux grands centres urbains, Auxerre fait 24 000, Sens 18 000. Et ce département, effectivement, comme l'a dit Sophie, a été tardivement touché par la crise parce qu'il y a des très nombreuses petites exploitations artisanales, commerciales, agricoles, qui ont été... avec retard du fait de leur structure moins capitalistique que les autres, moins touchés par le problème de retrait des capitaux américains suite à la grande crise. Il n'en reste pas moins que Lyon est touché par le marasme, des grosses difficultés dans les coûts de production, des prix qui baissent ou qui montent. Et donc... cette économie est un peu à la fois au ralenti et en surchauffe. C'est un peu paradoxal, mais ça s'explique parce qu'à l'époque, on n'a pas encore compris les grands mécanismes de l'économie, et les gouvernements qui sont à l'œuvre pour essayer de lutter contre cette crise ne trouvent pas de solution. Ils voient un petit peu l'économie comme une cocotte minute qui serait en surchauffe. Ils pensent que quand la température monte, il faut baisser les salaires. C'est ce que fera Laval avec les décrets-lois en baissant les salaires de 10%, mais c'est ce que font aussi les Anglais et les Allemands, ou en baissant les taux d'intérêt pour essayer de relancer les entreprises en rendant l'argent, le loyer de l'emprunt moins cher. Et donc, en fait, Lyon, comme la France, souffre de cette situation économique et de l'impéritie, l'incapacité des gouvernements à y faire face.
Frédéric Gand, vous avez beaucoup travaillé sur les aspects démographiques liés aux grandes pertes humaines de la Première Guerre mondiale. Mmh. Lyon accuse en tout cas un recul de natalité lié aux conséquences. Parce qu'en fait, les paysans ont été les grandes victimes, les grands sacrifiés. Absolument. Des combats de 14-18.
Vous avez tout à fait raison. Il y a à peu près 11 000 morts liés à la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, devrait-on dire, dans Lyon, ce qui est un manque à gagner au niveau démographique. Ce qui est en fait le cas de nombreux départements très ruraux de France. Et Lyon, comme la France, souffre des conséquences de la Grande Guerre. Certes, nous avons gagné la guerre, mais en termes démographiques, ça nous a coûté cher.
Merci Frédéric Gand. On va marquer, si vous le voulez bien, un premier intermède musical. On reprendra notre conversation dans une poignée de minutes. Je rappelle ce soir que c'est Sophie Barré, Denis Martin et Frédéric Gand, tous les trois historiens et membres de Adiamos 89, qui nous font la gentillesse d'être avec nous pour revenir sur cet événement marquant du Front populaire dans Lyon. Bonne soirée à toutes et à tous. C'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant syndicaux. À moi le soleil et le calypso, l'ananas, la noix de coco. À moi les alizés, les vents tropicaux, et moi
des traders. Adieu jogging, les briefings à l'heure. Breitling, ouvrier, riez. Adieu les blouses grises en Chine, l'usine. On délocalise les coûts. On dégringole les banques. On peut rigoler, la boîte à coller. Mes pouces, on va se la couler. Adieu Calico, adieu représentants syndicaux. À moi le soleil et le calypso, la nana la noix de coco. Adieu château Pétrus, encore stall en vin. Adieu les jolis dans les Mister Vin. Balancez les fraiseuses, les machines-outils. Riez, ouvriez du joli gâchis. J'ai creusé, creusé, j'ai creusé la dette. Au lieu de me creuser la tête, un jour les cours ont chuté et moi parachuté, la boîte à on va se la cour, les douces, la pilule en va se la dorer, j'ai le parachute, chute dorée. Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant syndicaux. Le soleil et le calypso, la nana la noix de coco. Adieu téléphone, adieu le bureau, secrétaire au talon haut. À moi les alizés, les vents tropicaux. Et moi frisé sur le bateau, la boîte a coulé, mes pouces, on va se la couler, les douces, la pilule, on va se la dorer, j'ai le parachute.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Retour en 1936 avec nos trois invités, Sophie Barré, Denis Martin et Frédéric Gand, membres de Adiamos, tous les trois historiens. Nous parlons du Front populaire dans l'Yonne. On a dit, et Frédéric Gand a insisté sur cet aspect, que le département de l'Yonne était un département extrêmement rural, avec une économie agricole assez forte. Néanmoins, il y a tout de même des industries dans l'Yonne, deux grands pôles industriels, Sens et Auxerre. Qui veut nous parler un petit peu des grands sites industriels, des activités industrielles, Frédéric Gand?
Oui, ben l'industrie la plus classique au sens où on l'entend, c'est-à-dire les grandes usines, c'est plutôt Sens, puisqu'elle est dans la très grande périphérie de la région parisienne. On trouve des grandes usines métallurgiques comme Le Lièvre, comme Morse, comme Pont-à-Mousson, comme Fichet qui fait des coffres-forts. On trouve des tanneries, des fabriques de chaussures comme la Paronaise, qui d'ailleurs utilise plutôt un personnel féminin, hein, c'est quand même 400 ouvrières. On a de la bonneterie, de la minoterie, des usines mécaniques, de petits assemblages. Et puis à Auxerre, on a moins de grandes structures, c'est plus dispersé, plus morcelé. C'est par exemple l'usine métallurgique de Guillet qui fait beaucoup de machines à bois et qui est très liée d'ailleurs à cette économie rurale dont on parlait. Beaucoup d'artisans se fournissent auprès de Guillet. On a aussi une chocolaterie qui est très connue, avec Moreau, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. On a des cartonneries comme Gagné. On a des fabriques de vêtements comme Soissons et Gemmes. Soissons, on aura peut-être aussi l'occasion d'en parler. Et puis des ocriers qui donnent un peu de travail aussi sur le Sénonais. Et puis, il ne faut pas oublier Migène, qui n'est pas un grand pôle industriel, mais qui, par sa batellerie et par son dépôt, qui est quand même important, qui fait presque 1000 cheminots, on parle beaucoup des cheminots en ce moment, a quand même des ateliers d'assemblage, de mécanique, de réparation des locomotives, de fraisage. Donc voilà, c'est l'essentiel. Pas oublier quelques industries aussi rurales, et puis bien sûr les industries extractives, des carrières, notamment celles de Chassignelle, Ravière et Massangis, et puis peut-être de ci et là quelques industries comme les industries Lerèche à Saint-Julien-du-Chaux qui font des rasoirs, ou bien les industries comme la sucrerie de Brinon.
Alors mentionnons aussi le bûcheronnage, qui est une activité importante en pays avallonné, enfin dans les limites du Morvan. On a des ouvriers du bûcheronnage. Même dans le monde agricole, il y a beaucoup d'ouvriers agricoles.
Voilà,
aussi,
énormément, effectivement. Ils sont très nombreux en Puisaye, dans l'Avallonnais. Et c'est d'ailleurs délicat de les classer parce qu'ils sont à la fois rattachables au monde industriel par leurs revendications, leur conscience de classe, et en même temps, ils appartiennent vraiment au monde agricole et rural.
Alors, parlons un peu des présences et des forces politiques en présence dans ce département de l'Yonne, Denis Martin, par exemple. Alors, quels sont les partis nationaux bien ancrés dans le paysage politique de l'Yonne dans ces années 34-35, avant le Front populaire?
Alors, évidemment, il y a des partis de droite et des partis de gauche, comme dans toute la France. Mais Lyon se distingue un petit peu des autres départements puisque c'est un département qui a été très précocement républicain. La Seconde République, dès 1848, on a vu la force du Parti républicain dans ce département. On l'a vu ressurgir à la fin du Second Empire avec une présence très très forte des républicains en 1870. Et cette tradition a débouché sur ce qu'on a appelé le radicalisme, le mouvement radical. Et donc Lyon, en 1936, c'est d'abord et avant tout la chasse gardée du parti radical socialiste. Donc les radicaux, qui sont placés sur l'échiquier politique plutôt centre-gauche, qui s'est droitisé au fil des décennies, parti de l'extrême-gauche avec Clémenceau à l'époque, et qui a dérivé vers la droite. Et en 1936, ils sont vraiment au centre de l'échiquier politique, et c'est autour d'eux que se forment les majorités au Parlement.
Il y a aussi une figure radicale haute en couleur dans Lyon, et qui est à la tête du Conseil départemental de Lyon. C'est Bienvenu Martin.
Bienvenu Martin.
Qui est un vieillard quand même.
Bienvenu Martin, plus de 80 ans au moment du Front populaire, mais toujours là, toujours présent, toujours réélu sénateur. C'est lui le chef, le président du groupe radical au Sénat. Et c'est lui, effectivement, qui fait un peu la pluie et le beau temps, puisque le Sénat a un pouvoir de blocage assez important, et notamment, Sophie Barré en parlera tout à l'heure, mais un pouvoir de blocage par rapport au niveau du vote des femmes qui était remarquable. À gauche, nous avons la SFIO. Alors la SFIO, c'est le Parti socialiste, un peu mal en point au début des années 30, puisqu'il y a une scission des néo-socialistes, et qui a dépouillé le Parti socialiste de Lyon un petit peu de tous ses cadres, notamment tous les élus sont passés au nouveau Parti socialiste de DA. Et les socialistes vont se remobiliser et remonter la pente grâce au Front populaire. Et puis, à gauche encore, le Parti communiste, qui est alors en 1930-36, qui est vraiment squelettique, après la désastreuse ligne politique classe contre classe, a perdu tous ses adhérents. Il reste une centaine d'adhérents dans Lyon, une dizaine de cellules. Il n'y a même plus de direction départementale, puisque c'est Dijon qui dirige le Parti communiste. Sur la droite, on a l'Alliance démocratique qui est avec une grande figure, hein, Flandin qui est la région d'Avallon, hein, c'est sur Vézelay, le canton de Vézelay. Donc Flandin, qui était même premier ministre, enfin, à l'époque on ne disait pas premier ministre, on disait président du conseil, mais il était président du conseil juste avant le Front populaire, donc une grande figure politique, réélue régulièrement également, qui représente ce qu'on peut appeler la droite dans le département, une droite relativement modérée, puisque sur son extrême droite, il y a d'autres forces politiques qui poussent. Alors on est un peu étonné aujourd'hui, mais il y avait des royalistes qui étaient assez bien implantés dans le département, comme dans toute la France. D'ailleurs, les émeutes de 1934 étaient dues en partie au mouvement royaliste. Donc il y avait des royalistes qui représentaient l'extrême droite de l'époque. Et dans l'Yonne, ils ne sont pas du tout absents, ils sont même très très présents. Et ils font des meetings, ils font des manifestations, etc. Donc un paysage politique contrasté avec à peu près tout l'arc politique représenté dans le département.
Et puis Denis Martin, ce qu'il faut souligner, et ça c'est une des conséquences de cette Première Guerre mondiale, c'est qu'il y a un grand nombre d'associations d'anciens combattants que l'on consulte et dont les avis sont importants aux yeux des politiques.
Effectivement, si on sonde un peu l'opinion publique, on se rend compte que ce n'est pas tellement les partis politiques qui se font le mieux entendre. Ceux qui se font le mieux entendre, ce sont les associations d'anciens combattants. La Grande Guerre est encore relativement proche. Hein, en 1936, on n'est même pas 20 ans après la Grande Guerre. Donc il y a des dizaines et des dizaines d'associations d'anciens combattants.
Alors tendance de droite ou de gauche, hein.
De droite et de gauche. Donc effectivement, on a deux grandes associations. On a l'UNC, l'Union Nationale des Combattants, qui est classée très très à droite, proche de l'extrême droite. Et puis on a une association de gauche. Qui rassemble tous les anciens combattants qui se reconnaissent plutôt dans les socialistes et dans les radicaux.
La FNCR.
Donc très important. Par exemple, les membres du colonel de la Roque aussi.
On est dans les ligues. Effectivement, c'est aussi une association d'anciens combattants de la Roque, effectivement. Donc les Croix de Feu. Donc les Croix de Feu sont très bien implantées dans Lyon également. Il recoupe en gros les opinions politiques, c'est à peu près la même chose que l'UNC. On a du mal dans Lyon à distinguer les Croix de Feu de l'UNC. Ils sont tous adhérents aux deux associations.
Oui, je trouve que ce qu'a dit Denis est extrêmement juste. On voit bien les conséquences de la Grande Guerre et on voit qu'une bonne partie du monde associatif ancien combattant se retrouve dans des actions politiques. Il ne faut pas oublier que les ligues, ce sont des ligues pratiquement paramilitaires, qui pour certaines, pas toutes bien sûr, défilent en uniforme avec leurs médailles et menacent, critiquent, vilipendent la politique du gouvernement. C'est le début de l'antiparlementarisme qui va conduire, on va en parler plus tard, à la crise du 6 février 1934 qu'a évoqué tout à l'heure, sans le préciser, Denis, c'est-à-dire un événement quasi-putschiste de prise du pouvoir en menaçant le palais Bourbon.
Alors c'est un événement très parisien, le 6 février 1934.
Tout à fait.
Il n'y a pas de répercussions en province.
Non, il n'y a pas de répercussions en province, sinon qu'il y a quand même, Denis en parlait, puisqu'il disait qu'il y avait beaucoup de croix de feu dans le Sénonais, il y en avait également dans la région d'Auxerre, puisqu'on pense même que Jean Moreau était lui-même croix de feu sa jeunesse. Certains sont allés manifester. Qu'est-ce qui se passait-il ? Il y avait un préfet d'origine corse qui s'appelait Chiappe, qui, sous le gouvernement du président du conseil, Édouard Daladier, favorisait toutes les demandes de manifestation dans la capitale. Et donc les ligues ont pris de plus en plus d'assurance, et pour un oui ou pour un non, pour le limogeage justement de Jean Chiappe, ont commencé à faire mine de marcher sur le palais Bourbon en compagnie du colonel de la Roque. À ceci se sont ajoutées d'autres ligues, la Fédération des contribuables, les Camelots du Roi, l'Action française de Maurras. Et ça s'est terminé dans la nuit par des affrontements extrêmement violents. On a du mal à croire aujourd'hui qu'il puisse y avoir 17 morts, dont une force de police et 16 manifestants.
Donc ce 6 février 1934, c'est aussi une droite alors antisémite. Il y a un antisémitisme qui est aussi très présent chez certains partis politiques et chez certaines associations d'anciens combattants. Sophie Barré.
Oui, pour revenir là sur le 6 février 1934, il y a quand même eu des répercussions indirectes dans notre département. J'ai eu le témoignage de Suzanne Lavra, qui avait 10 ans à l'époque et qui se souvient avoir participé à des manifestations au moment des élections de 1936 et d'être passée avec tout le cortège sous les fenêtres dans la rue, la place de l'horloge, là, et avoir crié sous les fenêtres d'un commerçant qui avait participé, qui disait être allé en 1934 à Paris en le traitant de fasciste, en faisant des gestes. Donc il y avait quand même, ça avait marqué l'opinion publique de Lyon, et beaucoup de femmes et beaucoup d'associations réagissaient à ces ligues, et si le Front populaire est né, c'est aussi en réponse à ce mouvement-là.
Est-ce que l'opinion publique est beaucoup plus politisée, plus engagée qu'elle ne l'est aujourd'hui en 2018? Alors il faut le dire aussi que les femmes n'ont pas le droit de vote, mais les femmes, elles subissent la vie chère, elles travaillent, elles sont parfois mal payées ou sous-payées très souvent. Est-ce que la vie politique est plus intense dans ces années-là, plus virulente qu'aujourd'hui?
Alors moi j'ai envie de répondre oui, déjà parce qu'on l'a déjà dit, il y a une bipolarisation beaucoup plus forte de la vie politique, mais aussi parce que l'opinion n'est pas façonnée par les mêmes médias qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la télévision, les réseaux sociaux façonnent l'opinion, mais chacun peut garder un peu son quant à soi. Autrefois, l'information, elle arrive de deux manières. C'est soit la presse parisienne qui arrive par voie de chemin de fer, soit la presse locale qui est foisonnante. Et si on étudie un tant soit peu, on n'aura certainement pas le temps, l'étendue des titres qui existent dans le département, on est sidéré par le nombre. Chaque petit groupe politique, chaque même parlementaire a son titre.
Flandin, par exemple, a son journal sur le pays avallonnais, voilà. D'autres dans le Tonnerrois.
Hamelin, là, oui, tout le monde là. Le petit régional qui peut rivaliser jusqu'en 1937 avec le Bourguignon, qui est l'ancêtre de Lyon républicaine, c'est l'organe de Jean-Michel René Tour. Donc on est étonné. Et donc les gens, en fonction, on pourrait presque dire, de leur adhésion à tel ou tel journal, sont déjà marqués. Ensuite, il y a aussi le rôle, tout simplement, il ne faut pas l'oublier, et je termine là-dessus, il y a le rôle des places publiques, des bourses du travail, des foires. L'information circule beaucoup dans le département par une convivialité qui n'est plus du tout celle d'aujourd'hui. Les gens se discutent beaucoup les jours de marché, échangent beaucoup en fonction de ce qu'ils ont lu le jour ou la veille dans la presse. Les choses vont quand même relativement vite, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Denis Martin.
Oui, on constate dans toutes ces années 30 que les manifestations publiques, notamment, rassemblent des foules énormes. On a du mal à imaginer, il y a une manifestation juste après la victoire du Front populaire dans Lyon, où il y a 15 000 manifestants. Mais 15 000 manifestants, on n'a jamais vu ça dans Lyon. Depuis, ça n'est jamais arrivé. Les plus grosses manifs qu'on a eues dans Lyon, c'était en 1995. On avait à peu près 6 ou 7 000 manifestants. Mais sous le Front populaire, c'était plus du double. Donc on est étonné par le nombre de participants à chaque meeting politique. Quand il y a des campagnes électorales, le marché couvert à Auxerre, qui peut tenir 5 000 personnes, il est plein. Il est plein. Aujourd'hui, ça pourrait faire rêver bien des hommes politiques d'avoir pour, en pleine campagne municipale, par exemple, avoir 5000 auditeurs qui sont venus écouter les orateurs.
On pourrait presque dire, paradoxalement, que les réseaux sociaux et les moyens modernes ont reclus les gens chez eux et qu'à l'époque, c'est une société du dehors, de l'extérieur. Les gens vont plus souvent dans la rue, sont plus à échanger qu'aujourd'hui.
Nous revenons avec nos trois invités, Sophie Barré, Denis Martin et Frédéric Gand, pour continuer notre conversation sur le Front populaire. Après la pause musicale, nous parlerons des élections municipales de 1935, qui sont absolument passionnantes. Et je rappelle que les actes du colloque de Adiamos 89 sont disponibles en librairie, ou alors On peut le commander aussi via le site internet de Adiamos 89, le Front Populaire d'Orléans. C'est absolument passionnant. Et chacun de nos trois invités ont notamment une contribution dans ce travail absolument délicieux, alors qui est bien sûr beaucoup plus complet que les deux émissions que nous vous offrons ce soir et la semaine prochaine. Mais bien évidemment, c'est un complément. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Tombé du ciel à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil. Tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour avec de l'air fidèle. Tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus bas? Tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel. Tombé du sommeil, connaissance, retomber en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert. Tombé comme un météore dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages.
Wagon Libre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est l'année 1936 et le Front populaire dans l'Yonne qui nous occupe ce soir avec nos trois invités, trois membres de l'association Adiamos 89. Denis Martin, un petit rappel sur le sens de Adiamos,
c'est l'association. Adiamos, c'est une association, je veux dire, surtout ce qu'on fait. Donc on récupère des documents, on fait des colloques, on fait des recherches dans les archives locales et on essaye de faire régulièrement un colloque et ensuite un livre qui essaie de mettre en lien les événements nationaux et les événements locaux.
Alors rappelez-nous la signification de Adiamos, c'est l'association pour la diffusion et l'information des mouvements ouvriers et sociaux. C'est
voilà.
Bien cela.
Absolument, bravo.
Et vous avez donc un site internet et je rappelle qu'il y a eu donc en 2016 ce colloque sur le Front populaire dans l'Yonne. Les actes du colloque sont disponibles, à peu près 400 pages avec des annexes, des photographies. Et nos trois invités ce soir sur Radion dans Wagon Livre ont largement contribué à ce colloque et bien sûr aux actes du colloque que vous pouvez vous procurer. 1935 est une année d'élection, nous ne sommes pas encore en 36, en mai 1935. Un grand nombre de villages et de villes de Lyonne doivent élire leurs édiles, Denis Martin. Alors là encore, c'est très politisé.
C'est très politisé et on est en quelque sorte dans une répétition, une avant-première du Front populaire. Parce que ces élections municipales arrivent au moment où la gauche a signé un pacte d'union donc pour préparer le Front populaire. Donc la gauche socialiste, la gauche communiste et même la gauche radicale. Les radicaux se sont résolus devant le danger des ligues et de l'extrême droite, donc pour défendre la République, se sont résolus à faire alliance avec les socialistes et les communistes. Ce qui fait que ces élections municipales prennent un caractère très particulier et la droite est extrêmement inquiète parce qu'elle voit les radicaux s'allier avec le diable et elle a très très peur de perdre ses bastions. Et effectivement, ces élections municipales prépare bien le Front populaire, puisque dans de nombreuses villes, y compris dans l'Yonne, la gauche remporte les élections municipales.
Alors il y a des gens qui sont réélus, par exemple à Avallon, Georges Chivert est réélu, mais ça c'est une terre, pareil, de droite et catholique. Pour la gauche, c'est une terre de mission, le pays avallonnais.
Ah, c'est très difficile pour la gauche de venir s'implanter à Avallon. Effectivement, Chivert est réélu très confortablement. On observe toujours une pour vos auditeurs de l'Avallonnais. Il faut quand même qu'ils le sachent. La terre d'Avallon, ça a toujours été, mais depuis la Révolution française, on est sur une terre très catholique, sur une terre très conservatrice. Et effectivement, les élus reflètent tout à fait ces opinions. Donc là, Chivert, Avallon, est réélu très confortablement. C'est un homme de droite qui donne satisfaction à la population.
Alors bon, à Tonnerre, c'est Maurice Cerceau qui est élu. Alors contre Perrault Pradier, alors Perrault Pradier, là aussi, lui, il deviendra député. À Tonnerre, c'est plutôt la droite qui
alors à Tonnerre, il y a une vraie lutte politique. Il y a même un journal qui dit à Tonnerre, c'est les rouges contre les blancs. C'est un peu vrai. On a effectivement Perrault Pradier qui n'est pas seulement député, il a même été secrétaire d'État puisque Flandin d'Avallon l'avait pris dans son ministère comme secrétaire d'État. Donc il a été secrétaire d'État, il représente la droite modérée de l'Alliance démocratique. Et puis contre lui, il y a une gauche qui est assez virulente sur Tonnerre. Et donc le maire, Cerceau, qui est lui républicain socialiste, donc une gauche aussi relativement modérée, un peu atypique, c'est quelqu'un de gauche mais qui va à la messe, donc qui a une famille nombreuse, il a de nombreux enfants. Donc il est un petit peu atypique mais résolument à gauche. Et il gagne les élections après un combat assez acharné contre Perrault Pradier.
Du côté de Migennes, alors c'est un instituteur SFIO qui est élu dans cette cité rouge de Migennes. C'est une ville bien particulière tout de même dans le Migennes.
Alors c'était une cité rouge, enfin qui était plutôt devenue rose dans les années 30, avec un maire socialiste relativement modéré qui avait démissionné suite aux élections cantonales qui avaient mal tourné pour lui. Et du coup, la droite avait pris le pouvoir à Migennes. Et les élections de 1935 redonnent Migennes à la gauche avec un instituteur, effectivement, socialiste. Et donc, la ville de Migennes redevient rouge.
Alors, intéressons-nous maintenant à Sens. Alors, à Sens, il y a une aventure assez cocasse. C'est le docteur Dupéché qui va être contraint de démissionner pour une histoire de faux témoignages. Enfin, il a caché une amourette secrète. Il a fait croire qu'il a été agressé. Enfin, il y a un micmac incroyable qui va même devenir une affaire presque un peu nationale, dont le canard enchaîné s'emparera, semble-t-il.
Absolument. À Sens, c'est une affaire qui devient nationale. On a même le colonel de la Roque qui se mouille, qui vient jusqu'à Sens pour soutenir le docteur Dupéché. Effectivement, Dupéché, donc c'est la droite, bien à droite, hein, c'est croix de feu. Hein. Donc Dupéché gagne les élections municipales de Sens à cause de la division de la gauche. Si la gauche n'avait pas été divisée comme elle l'était, elle aurait pu conserver la ville. C'était une ville qui était dirigée par des radicaux, donc relativement bien implantée à gauche. Et là, la division fait basculer la ville à droite. Donc docteur Dupéché accuse la gauche de l'avoir agressée, de l'avoir battue, tapée, etc., alors qu'il était en mission pour aller voir une patiente dans la campagne, et puis qu'on lui aurait épinglé sur son veston sa carte d'appartenance aux Croix de Feu, etc. Donc ça fait toute une enlevée de boutique. Et finalement, au final, on se rend compte que il était simplement allé voir sa maîtresse pour rompre avec elle, apparemment, que ça s'était mal terminé avec les membres de la famille de la dame en question, et qu'en fait, tout ça, c'était une pure invention de sa part. Donc, une affaire de mœurs qui devient une affaire politique, qui montre un petit peu quand même le climat de l'époque. Cette anecdote est intéressante pour ça, parce que ça montre jusqu'où peuvent aller les passions politique, puisqu'on en est à transformer une affaire de mœurs en attentat politique.
Et c'est donc Lazare Bertrand qui va succéder au docteur Dupéché, qui est lui un radical indépendant.
Oui, enfin, il se met une étiquette radicale comme beaucoup de gens de droite de l'époque. On se dit radical pour être élu, puisque les gens de Lyon sont très attachés au radicalisme. Mais en fait, ce monsieur-là, il est de droite. C'est la même coloration politique que Dupéché.
Alors, nous n'avons pas oublié Auxerre. À Auxerre, il va émerger une figure sur le plan municipal qui va rester longtemps en place. C'est Jean-Michel René Tour.
Alors, René Tour, il est déjà maire depuis 1928. Donc là, il est réélu en 35. Il est réélu haut la main, très facilement. Alors, René Tour, on a un petit peu de mal à le cerner politiquement. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il est plutôt René Touriste, c'est-à-dire qu'il est ancien socialiste, il a été à la CFI au un moment, et puis il se donne une étiquette socialiste indépendant. Il est vraiment indépendant, hein, il obéit à aucune consigne nationale. Mais là, au moment du Front populaire, il se range résolument du côté du Front populaire et il fait bien son travail politique pour la gauche.
En tout cas, c'est une figure d'intellectuel. Il a commis quelques écrits poétiques. Il a eu une vie très parisienne. Il est homosexuel, apparemment.
Oui, il est homosexuel et c'est connu de toute la population. Et là, on peut voir avec quelle libéralité les Auxerrois l'élisent, malgré ses penchants sexuels qui, à l'époque, étaient extrêmement décriés. Mais ça n'empêche pas son élection. Et puis, il a une espèce d'aura, effectivement. Il a même écrit des scénarios de films qui ont été tournés. Donc, poésie, théâtre, littérature, cinéma, c'est un maire auxerrois très parisien.
Alors, cette année 1935, donc année d'élection municipale, je voudrais juste rappeler au passage que c'est l'année où le service militaire passe à 2 ans en Allemagne avec un réarmement de l'aviation. À la fin de l'année 35, c'est l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini, hein, la fameuse guerre d'Abyssinie. Donc il y a vraiment, on peut dire, les nationalismes, l'hitlérisme et le fascisme menacent de plus en plus. C'est important, je crois, dans le contexte politique. On lutte contre les ligues, on lutte contre la montée du fascisme. Et puis il y a, on parlait de cette vie politique intense, assez virulente, on exprime ses mécontentements politiques de manière parfois très, j'allais dire très, très scandaleuse, enfin très, très marquée. Le 9 novembre 1935, Denis Martin, il y a un attentat contre, attentat, je mets le terme entre guillemets, contre l'ancien ministre de l'Intérieur, Eugène Fraud, qui vient à Auxerre et qui est accueilli de manière un peu spectaculaire, Denis Martin.
Alors effectivement, il vient pour une grande manifestation du Front populaire, enfin des forces de gauche. et il se fait attaquer. Il arrive à la porte de Paris, à Auxerre, et là, il est attaqué par un royaliste, un capitaine de réserve, qui lui lance un seau de sang à la figure en disant Fraud est responsable des morts du 6 février 1934. C'était lui qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. C'est lui qui a fait donner la police contre les manifestants et c'est lui qui est responsable des morts. Il est normal que le sang lui retombe sur la gueule, je cite. On a là aussi un fait divers qui montre la violence quand même de l'époque où un tel attentat, aujourd'hui, ferait couler mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. À l'époque, ça n'a pas ému plus que ça la presse nationale.
Cette année 1935 donc, voit se constituer un front populaire. Donc, Denis, vous l'avez bien dit, c'est le rassemblement des forces alors socialistes, radicales, et faire face à l'extrême droite, à la droite conservatrice, et lutter contre les ligues et les croix de feu qui menacent politiquement le paysage politique français. C'est bien cela, le Front populaire, pour bien
effectivement,
restituer.
Effectivement, le Front populaire, c'est d'abord ça, parce qu'en fait, quand on regarde le programme du Front populaire, c'est relativement mince, c'est relativement général. Du pain, la paix, la liberté. Ça reste quand même relativement modeste. Par contre, ce qui fait beaucoup bouger, je pense, les électeurs, les citoyens, c'est plus la crainte de voir la situation politique dégénérer comme en Allemagne, où, n'oublions pas, M. Hitler a pris le pouvoir depuis simplement deux ans, et où on voit ce que peut donner une dictature dans une vieille démocratie.
Vous l'avez précédemment mentionné, Denis Martin, le 14 juillet 1935, il y a eu une grande manifestation antifasciste à Auxerre, c'était au parc de l'Arbre sec, qui rassemble là des milliers et des milliers de militants pro-Front populaire.
Oui, en fait, des militants, c'était surtout des gens ordinaires, des citoyens. Et des citoyennes.
Car il y a des femmes dans ces rassemblements.
Voilà, alors ça, c'était assez nouveau. Les journalistes des journaux locaux le notent, ils disent... Ils sont très étonnés. Il y avait même des femmes. Il y avait même des femmes dans la manifestation, alors que apparemment, ce n'était pas tellement l'habitude jusqu'à présent.
Enfin, il y avait une trentaine de comités locaux du Front populaire dans Lyon dès l'année 35.
Alors, dès l'année 35, effectivement, les partis politiques s'évertuent à créer dans chaque canton, au moins, un comité local du Front populaire pour préparer les élections de 36.
Alors, avant les élections législatives de 36. Chaque parti politique s'organise à gauche et constitue un front, c'est-à-dire une alliance, des alliances politiques, radicaux, socialistes et communistes, avec un objectif clairement défini, Frédéric Gand. Il s'agit de barrer la route au fascisme et aux ligues, de défendre la République et les libertés.
Oui, absolument. On peut même dire, d'une certaine façon, que les élections municipales constituent la répétition générale de l'année 36 en termes d'élections législatives. Alors, il faut peut-être faire un petit retour en arrière pour éclairer nos auditeurs, puisque nous avons parlé un petit peu de nombreux événements au niveau local, quelquefois national et un peu moins européen. En fait, il y a trois courbes qui se croisent en 1930, au début des années 30, et sur lesquels il faut revenir pour bien comprendre. La première, on l'a déjà évoquée, je n'y reviens pas, c'est l'échec des politiques publiques que tous les gouvernements, y compris celui de la France et notamment de Laval, mènent contre la crise et le marasme. Ils n'y arrivent pas, donc cela exaspère les gens, et comme on le voit maintenant, c'est pas pour rien qu'on compare les années 30 et notre situation d'aujourd'hui, les gens cherchent des solutions, pensent que les hommes politiques sont totalement incapables, d'où ces phénomènes de protectionnisme, de repli, de xénophobie, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que parallèlement, c'est la deuxième courbe qui monte, c'est la montée du fascisme. Effectivement, le 30 janvier 1933, Adolf Hitler, on vient d'en parler, est nommé par le président Hindenburg en Allemagne chancelier, alors qu'il vient à la tête de son parti national NSDAP, et il vient de remporter les élections. 10 ans après que la marche sur Rome d'octobre 1923 ait porté Mussolini au pouvoir. Ce n'est pas rien, le fascisme semble être une solution qui propose plus d'élan vital, plus d'activité économique et qui mène à la guerre, et qui séduit une partie des Français et des Iconais. Ça, c'est la deuxième courbe. Et il y a une troisième courbe qu'il ne faudrait absolument pas oublier, qui est celle, en quelque sorte, du communisme. On a parlé tout à l'heure, sans trop revenir dessus, de la tactique classe contre classe. De quoi s'agissait-il ? En fait, Moscou et Staline interdisaient à tout parti communiste, quel qu'il soit, y compris français, de s'allier avec les socialistes, qui étaient accusés d'être des social-traîtres. Ce qui veut dire que les communistes se sont battus contre les socialistes lors des campagnes électorales, à commencer par les élections de 1932 et 1933 qui ont porté Hitler au pouvoir. Ce qui veut dire que cette tactique de classe contre classe va être abandonnée par Staline pour pouvoir lutter contre le fascisme. Il y avait une forme de responsabilité. Et à partir du moment où on abandonne cela, on va voir apparaître à l'échelle européenne, et y compris en France, un organisme qu'on va appeler l'organisme du nom des conférences qui s'étaient faites, les comités Amsterdam-Pleyel, parce qu'il y aura une première réunion de tous les communistes à Amsterdam, puis ensuite une deuxième qui aura lieu à la salle Pleyel à Paris. Et donc ces comités Amsterdam-Pleyel, hein, dirigés essentiellement par des communistes, et notamment par Louis Aubry, qui était un instituteur communiste en retraite dans Lyon, vont avoir une très grande importance. Ça, il faut vraiment le souligner. Il va y avoir plus de 1000 militants qui vont en faire partie. Il va y avoir une déclinaison très importante dans Lyon. Et après, le 6 février 1934, on va voir une manifestation le 12 à Paris avec son pendant local dans Lyon. Des milliers de militants qui vont manifester. C'est très important. Et quand en 1935, puis en 36 où on arrive, va se créer le comité de rassemblement populaire, c'est-à-dire le comité de front populaire qui va rallier ces trois partis, une partie de ces militants était déjà mobilisée. Là, ça va être un socialiste qui s'appelle Jules Pourin qui va en prendre la tête. Donc en fait, le front populaire, il faut le voir dans ce contexte très général et en même temps extrêmement local, ce qui fait que lorsqu'on va voir les élections de 36 se profiler, se préparer, eh bien, du côté de la gauche, du fait de l'abandon de cette tactique classe contre classe et de tout ce que je viens de dire, la gauche est prête, en quelque sorte. Elle est préparée à l'action, elle a des comités locaux, et des comités locaux aussi de rassemblement populaire qui ne sont pas exactement, on n'a sûrement pas le temps de développer, mais qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux des comités Amsterdam-Pleyel.
L'importance pour radicaux socialistes et communistes donc, qui s'engagent pour faire front, un front populaire contre le fascisme, c'est de défendre pain, paix et liberté. C'est un petit peu le triptyque qui est avancé. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de meetings électoraux. Hein, Sophie Barré, les femmes sont présentes. Les femmes ne votent pas. Hein, il faut le rappeler, les femmes n'ont pas le droit de vote, mais les femmes s'investissent dans l'action politique publique.
Oui, les femmes sont très impliquées. Elles ont aussi, elles s'organisent aussi. Elles ont créé des comités, le comité mondial des femmes pour la paix et contre le fascisme. Donc elles se réunissent aussi, que ce soit dans les villes, dans les villages. Et ce sont des comités de femmes qui agissent. Il y en a 43 dans Lyon. Elles ont participé aux manifestations au moment de l'élection du Front populaire. Elles sont très actives. Elles font beaucoup de choses. Et toujours là, encore une fois, ça s'est mis en place pour répondre à l'installation des mouvements fascistes. Hein, c'est ce qui les a fédérées. Dans Lyon, elles sont dirigées par Hélène Berthaud. Et elles font différentes choses. Elles ont aussi beaucoup participé au moment de la guerre d'Espagne. Elles ont aidé des réfugiés ou des combattants espagnols. Donc ça pouvait être soit en faisant des tricots, soit elles s'occupaient beaucoup aussi des activités culturelles. Donc elles ont une activité importante à ce moment-là. Et aussi, c'est aussi dans ces comités qu'elles réclament le droit de vote, qu'elle demande à pouvoir participer aussi à la vie civique.
À Auxerre, Sophie Barré, il y a cet Auxerrois ébéniste qui s'appelle Maréchal et qui accepte d'être le candidat des femmes, enfin de suffragette auxerroise, Denis Martin, d'origine sociale plutôt bon teint, bonne bourgeoisie. Oui, pas des petites ouvrières de chez Guillier.
C'est vrai que la revendication du vote des femmes est portée d'abord et avant tout par des couches sociales, disons, de la moyenne bourgeoisie, des institutrices ou bien des femmes qui sont engagées par ailleurs dans les comités de la Croix-Rouge ou des organismes comme ça et qui portent haut et fort la revendication « les femmes doivent voter ».
Et ce qui est surprenant, c'est... Oui, Frédéric.
J'ai ici l'extrait du Bourguignon dans son édition du 16 avril 1936. Voilà ce que dit Maréchal. Je cite « Ma candidature n'est simplement qu'une manifestation symbolique. J'ai été sollicité par un groupe de dames pour porter leur nom, car la loi n'autorise pas les femmes à faire acte de candidature officielle. Elles réclament avec insistance un peu partout en France le droit de vote. »
Oui, ça leur permettait comme ça de pouvoir afficher leurs revendications sur les panneaux électoraux. Faut savoir qu'il y a certaines femmes qui se sont présentées alors qu'elles n'avaient pas le droit de vote. Par exemple, Geneviève Sansois s'est présentée aux élections cantonales. Elle participait aussi, ailleurs en France aussi, aux élections municipales. Alors à chaque fois, évidemment, c'était invalidé, mais c'était symbolique. Elles étaient là, elles étaient présentes. Et dans certains conseils municipaux, en particulier, vous avez parlé de Migennes tout à l'heure, il y a des femmes qui siègent au conseil municipal, alors qu'elles n'ont pas le droit de vote encore.
Alors que finalement, les hommes politiques, y compris les Iconais, ne sont pas du tout opposés au droit de vote des femmes. Le blocage, il vient du Sénat.
Oui, je ne sais pas si on peut dire que dans Lyon, tous les hommes politiques sont pour le droit de vote des femmes. Je pense que les radicaux, notamment les radicaux de Lyon, sont sur la même ligne politique que leurs collègues qui siègent au Palais Bourbon. Et là, on a, depuis des décennies, un blocage. Chaque fois que la Chambre des députés vote une loi pour le droit de vote des femmes, ça a été fait plusieurs fois, c'est retoqué au Sénat. Et ce sont les radicaux, pour des raisons X ou Y, mais enfin, d'une part, parce qu'ils pensent que les femmes sont trop influencées par le clergé, et qu'elle voterait plutôt à droite, et que ça ferait perdre des positions aux radicaux. Et donc c'est sur cet argument-là que les radicaux refusent aux femmes le droit de vote. Moi, je pense qu'il y a surtout beaucoup de machisme dans cette position, et qu'on est plus là dans une tradition traditionnelle.
Oui, je suis d'accord. Il y a à la fois cette position, on va dire, phallocratique et machiste, et puis peut-être tout simplement que le Sénat est quand même composé par des gens très âgés, puisqu'on a vu que Bienvenue Martin est quand même un octogénaire, et on ne peut pas demander à des gens sans femmes et tellement âgés d'avoir des conceptions très novatrices.
Oui, puis les femmes n'étaient pas toutes revendicatrices non plus de ce droit. Et c'était Louise Vesse qui dit qu'en fait, les femmes du département, enfin, qu'elles croisaient, c'était pas leur priorité principale. En fait.
Le Front populaire dans Lyon, les actes du colloque à Diamos sont disponibles en librairie ou en commande sur le site de Adiamos 89. Je vous remercie, Sophie Barré, Denis Martin et Frédéric Gand. On se retrouve mercredi prochain, toujours sur Radion, à partir de 21h. Nous serons le 26 avril 1936, c'est-à-dire lors du premier tour des élections législatives. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez raté le début de cette émission, vous la retrouvez très facilement par quelques clics, Denis Martin. Mais oui, c'est formidable, l'informatique et l'Internet. Vous retrouvez cette émission disponible à l'écoute sur le www.yannickpetit.fr. Très bonne soirée à toutes et à tous et à mercredi prochain pour la suite de cette passionnante émission sur le Front populaire dans Lyon. Au revoir.
Bonsoir.